Voici ma question. Qui ce soir est heureux? Ah, je vois quelques mains. Bon, trouvez Matthieu chapitre 5 et je vais vous dire qui ici est heureux. Matthieu chapitre 5. Ici, c'est vraiment le grand serment des évangiles. On appelle ça le serment sur la montagne, c'est le serment de Jésus, c'est les chapitres 5, 6, 7. C'est aussi long que certaines des épîtres. Et c'est l'enseignement de Jésus. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voici donc la parole du Seigneur. Il y a des choses qui sont vraiment fondamentales dans la vie. Et fondamentales dans le sens qu'on doit revenir tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et je suis convaincu que ça, c'est un passage qui doit être quelque chose d'actualité, si je peux dire ça comme ça. Quelque chose à portée de main pour chaque croyant. Et de nous rappeler ce que Jésus dit dans ce passage. Alors, on veut, avec peut-être plusieurs soirs, même regarder ces choses, mais juste ce soir, comme introduction, à voir cette idée d'être heureux. Qu'est-ce que c'est d'être heureux? OK? Alors, probablement, quand vous pensez heureux, vous pensez à un état d'esprit, état d'âme, parfois, quelqu'un va dire. Un état d'esprit. Alors, je dis, qui est heureux, lève la main. Est-ce que je suis heureux? Oui, mais demain matin, quand il faut se lever tôt, il pleut, il fait froid, je serai peut-être triste. Hein? Heureux, c'est le contraire de triste, dans ce sens. Et ça, c'est un vrai sens de ce mot. Et la Bible est très réaliste par rapport à nos sentiments. Par exemple, Jacques, chapitre 5, il va lui dire, est-ce que quelqu'un est affligé, qu'il prie? Et après, il va dire, est-ce que quelqu'un est dans la joie, qu'il chante un psaume? Et Pierre aussi parle du fait que nous sommes pour un temps attristés. Jésus va dire, que votre cœur ne se trouble pas. Et il va dire de lui-même, mon cœur est troublé même jusqu'à la mort. Donc, il y a cette idée d'un état d'esprit, on se sent heureux. C'est le sentiment d'être heureux. Okay? Mais quand on pense à ce mot dans la Bible, il y a deux sens qu'il faut toujours garder à l'esprit. Il y a cet état d'esprit, mais deuxièmement, il y a ce que je vais appeler un état de fait. Un état de fait. Alors j'ai cherché sur Internet pour vérifier que ça se dit. Il parle parfois des états, deux états de fait, c'est-à-dire la chose est peut-être pas normale, etc., mais c'est l'état de fait, c'est-à-dire c'est la réalité de la chose. Et dans la Bible, quand on parle de heureux, il y a aussi cette notion d'état de fait. C'est la réalité de la chose. C'est pour ça, parfois, dans une traduction, vous allez voir heureux, parfois vous allez voir bienheureux, mais aussi il y a cette idée d'être béni. C'est comme si on pensait au mot béni. Imaginez, vous parlez avec un prince, il vit une très très belle vie, mais il se lève, il est triste, il dit que c'est ennuyant, etc. Et quelqu'un va lui dire, mais tu sais, en fait, tu es très béni. Peut-être tu ne le réalises pas, mais regarde tout ce que tu as. Regarde comment vivent les autres. Regarde comment tu vis. Tu es béni. Tu as une vie bénie. Voilà, le mot heureux veut dire ça aussi. On pourrait dire, tu es heureux. Si tu le ressens ou non, tu es heureux. C'est un état de fait. Il est dans une position heureuse. Alors, si vous regardez ces béatitudes, ce qu'on appelle les béatitudes, vous pensez que Jésus a plus à l'esprit un état d'esprit ou un état de fait quand il dit heureux, 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 heureux? Qu'est-ce que vous pensez en regardant ces béatitudes? Ok? Un état d'esprit, d'accord? Donc, ils sont joyeux. C'est ça l'idée. Joyeux, ok. Oui. Pardon, Luisante et puis Viviane. Ouais. Je sais pas. Ah, un état de fait. Ok, et pourquoi?
Parce que ce que tu dis, c'est par rapport à ce qu'il possède, quoi. Par exemple, tu dis que les bonheurs calent les électrons de la terre.
Ok, donc à cause de ceux qui possèdent, par exemple. Tu voulais dire quelque chose, Viviane?
Je crois qu'il y a une grosse différence entre être joyeux et être heureux.
Ok.
Avec un visage triste, le cœur peut être content.
Oui.
Donc c'est un état où on est heureux, où on est apaisé, où, quelles que soient les circonstances, parce qu'on est réconcilié avec Dieu, parce qu'on est en paix avec Dieu.
Ok. Oui, je pense surtout heureux tel qu'il est utilisé ici, hein, dans ce passage. Et dans le mot même, il y a ces deux idées. Okay? Et on va voir le lien entre les deux idées dans un moment. Mais regardez ceux qui sont heureux ici. Ce sont ceux qui, à qui est le royaume des cieux. Ils sont consolés. Ils hériteront la terre. Ils seront rassasiés. Ils obtiendront miséricorde. Ils verront Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu et le royaume des cieux est à eux. Jésus dit, ils sont heureux. Vous voyez, il ne dit pas ici parce qu'ils ont le cœur léger, ou parce qu'ils chantent, ou parce qu'ils ont un grand sourire. Il dit, ils sont heureux parce que ces faits sont vrais pour eux. Donc, je suis d'accord avec ce que Luisante a dit, que ça parle surtout ici d'un état de fait. Regardez plus tard le même mot, c'est chapitre 16, encore en Matthieu, et verset 17. Alors, Jésus parle à Pierre. Et Pierre vient de confesser, il a dit, mais qui pensez-vous que je suis? Et Pierre dit, bon, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et au verset 17, donc Matthieu 16, 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Pierre. Voilà, ouais, c'est pas une question. C'est intéressant, souvent quand on parle à quelqu'un, on va lui demander s'il est heureux, parce qu'on pense à ses sentiments, qu'est-ce qu'il ressent. Mais Jésus prononce cette réalité. Pierre, tu es heureux. Ou le Darby va dire, tu es bien, bien heureux. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, tu es heureux, tu es heureux, Pierre, parce que le Père t'a révélé cette vérité. Tu es dans cette position d'être heureux. Tu es béni dans ce sens. Et donc on peut se poser la question, suis-je heureux? Suis-je heureuse pour les femmes? Si le royaume des cieux est à vous, si vous êtes consolés par Christ, si vous hériterez la terre, si vous allez hériter la terre, pardon, si vous serez rassasiés, etc., vous êtes, Jésus le dit, vous êtes heureux. C'est un état de fait. Et parfois, comme le prince, il doit se reprendre et dire, « Ok, peut-être je m'ennuie, mais c'est vrai, je suis béni. J'ai une vie heureuse. » En réalisant le fait, ça va avoir après un impact sur même son état d'esprit. D'accord? Donc, dans ce passage, quand même, il y a deux états de fait. Yeah. Parce que nous avons vu que... nous avons lu les bonnes choses, hein. Ils hériteront la terre, le royaume des cieux est à eux. Mais quand vous voyez quelqu'un dans la rue et vous apprenez, ah, le royaume des cieux est à eux, vous attendez à qu'il soit comment? Oui, heureux dans la... Mais même leurs circonstances, quand vous voyez, le royaume des cieux est à eux. Regardez le verset... 10, ça parle de ceux qui sont quoi? Exactement, persécutés. Et puis 11, ça parle de ceux qu'on persécute, qu'on dit faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, lorsqu'on vous outragera, etc. D'accord? Donc il y a deux réalités dans la vie de cette même personne. Le royaume des cieux est à elle, et elle est persécutée, outragée, on dit des choses faussement sur elle, etc. Oui, il y a deux explications de sa situation, deux réalités qui sont concurrentes ensemble. Et ça, c'est la vie du chrétien. La Bible dit, il n'est pas encore démontré ce que nous serons, hein, notre vie est cachée avec Christ en Dieu, mais lorsque Christ apparaîtra, eh bien vous apparaîtra aussi avec lui dans la gloire. Mais encore, on ne le voit pas encore. Romains 9 dit qu'on attend encore la révélation des fils de Dieu. On marche dans la rue, les gens ne voient pas, ah, un fils de Dieu, pas encore. Non, on est toujours persécuté, maltraité, opprimé. Et donc il y a ces deux réalités dans nos vies dont Jésus parle ici. Il ne peint pas la vie en rose, même dans ses béatitudes. Il parle d'être persécuté. Et donc, il y a aussi deux états d'esprit. Deux états d'esprit. Même en regardant le mot « heureux ». Il y a la réalité de la chose, il y a le fait de la chose. La persécution, mais aussi le fait qu'on a toutes ces bénédictions de Dieu. Mais il y a deux états d'esprit aussi. Parce que qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Tout au début du verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Là, c'est clair qu'il parle d'un état d'esprit. N'est-ce pas? Est-ce que servir de d'autres mots? Il dit, vous êtes heureux, donc réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que vous êtes heureux. Et soyez dans l'allégresse. C'est ma réaction envers ces choses. Donc, on vit dans cette tension quotidienne, parce qu'on a ces deux réalités. On est dans un monde où il y a plein d'injustices. On en a parlé juste ce soir. On vit dans l'injustice. Les gens vont nous maltraiter. Ça va arriver. On va nous voler de l'argent, hein, comme c'était arrivé à Laurent. On va être même persécuté pour la justice et parce que nous sommes en Christ, à cause de lui. Ça, c'est une réalité. Et de l'autre côté, nous savons aussi que Dieu nous a déjà donné toutes ses promesses. Comme nous avons appris en Hébreux 11, nous vivons dans la foi en attendant cette cité dans Dieu et l'architecte et le constructeur. Et ça aussi, c'est une réalité. Et nous sommes attristés par les difficultés de la vie. Nos cœurs sont troublés parfois par ces choses. La Bible est très ouverte par rapport à ça. Paul aussi parle du fait que Dieu a épargné la vie d'Épaphras. Il a dit, comme ça, je n'aurai pas une tristesse sur une autre. Déjà, il était malade, mais Dieu l'a gardé. Ça aurait été une tristesse pour lui. Et dans la même lettre, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous dis, je le répète, réjouissez-vous. Dans la même lettre, où il parle d'être triste, et ça aurait été une plus grande tristesse si son ami serait mort. Donc, il y a ces deux états aussi d'esprit dans le chrétien. Mais le problème pour nous, je crois le danger, le piège pour nous, c'est quand on se focalise sur un seul état de fait, le côté négatif, la persécution, la difficulté, la fatigue, la maladie, le manque d'argent, etc., forcément, ça va avoir un impact sur notre état d'esprit. Et Jésus n'a pas besoin de dire, voilà, n'oubliez pas que vous souffrez, etc. On n'a pas besoin de se rappeler de ces choses. Jésus dit, vous avez aussi un autre état de fait. Il y a des réalités dans vos vies. Des choses que les gens ne peuvent pas vous voler. Parce que Matthew Henry, on lui a volé une fois sa sacoche, tout son argent. Et puis, il a écrit dans son journal, je crois que cinq ou six raisons de rendre grâce au Seigneur pour cela. Et la première, c'était que j'étais volé et ce n'est pas moi le voleur, il a dit. Ça aurait pu être moi le voleur. Et puis, il a pensé à quatre autres bénédictions que Dieu lui a montrées à travers même cette difficulté dans sa vie. Et Jésus dit, écoutez, vous êtes heureux. Quand le Seigneur vous regarde, il vous dit, mais ça, c'est une personne heureuse. Vraiment, elle a la vie bénie. Le Saint-Esprit l'habite. Je suis toujours avec elle. Dieu le Fils, par son Esprit, toujours avec nous. Toujours en train de concourir toutes choses à notre bien. Nous sommes bénis. Mais on l'oublie trop souvent. Et en oubliant cet état de fait, nous sommes toujours, souvent, attristés et découragés dans notre esprit. Dieu veut que nous puissions nous réjouir tout le temps, malgré les difficultés. Parce qu'il y a des choses qui ne changent pas, qui sont à nous. Et même la mort devient pour nous, c'est toujours un ennemi, hein. La mort ne devient pas un ami, mais la mort devient pour nous la porte des cieux. Donc même face à la mort, on peut se réjouir, sachant que Christ a vaincu la mort. Vous voyez, c'est où sont rivés nos yeux, sur quel état de fait? Parce que ça va avoir un impact après sur notre état d'esprit. Et donc au verset 11 et verset 12, il dit, ok, On vous persécute, c'est vrai, mais réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse maintenant, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est-à-dire, l'anticipation même de l'avenir doit créer la joie dans le présent. Comme un enfant qui attend Noël, il va recevoir un cadeau, il attend Noël avec anticipation, il y a déjà ou son anniversaire, il y a déjà un peu de joie dans l'attente. Nous aussi, on a le droit d'attendre ces choses. Nous serons récompensés. Et donc, la promesse du futur doit avoir un impact sur la joie du présent. Mais il y a juste une autre chose. Voilà, donc il y a cet état d'esprit, il y a un état de fait. Mais il y a une autre chose qu'on n'a pas mentionnée dans ces béatitudes. Parce que, reprenez le premier, par exemple, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ok ? Heureux, on dit, bon, c'est un état de fait, mais aussi un état d'esprit. Mais l'état de fait, c'est que le royaume des cieux est à eux. Mais la partie de chaque béatitude qu'on n'a pas encore adressée, dont on n'a pas encore parlé, c'est quelle partie ? Voilà, très bien. C'est cette première partie. Qui sont heureux ? On a vu, ils sont heureux pourquoi ? Parce que le royaume des cieux est à eux, parce qu'ils seront consolés, parce qu'ils hériteront la terre, etc. Ça, c'est le fait. C'est pour ça qu'ils sont heureux. Mais qui est heureux ? Ils sont décrits ici. Qui est heureux ? Eh bien, les pauvres en esprit, les affligés, les débonnaires, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, ceux qui ont un cœur pur, ceux qui procurent la paix et ceux qui sont persécutés. Ça, ce sont les personnes qui sont heureux. Et notez, le monde va vous dire que la joie s'obtient soit par ce qu'on fait, donc des expériences, des vacances, etc., des personnes autour de nous qui nous montrent l'amour, etc., des expériences vécues, soit par ce qu'on possède, ce qu'on a. C'est pour ça qu'on achète de belles voitures, on veut être heureux et on essaie de procurer de ces choses et de ces expériences tout ce qu'on peut. Mais Jésus lie le bonheur et la joie et le fait d'être heureux à ce que nous sommes, à notre caractère, ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et je vais appeler ça, pour être parallèle, un état d'être. Qui suis-je ? C'est ça qui détermine, en fait, si je suis vraiment heureux. Est-ce que je suis pauvre en esprit ? Est-ce que je suis affligé ? Par ce qui devrait m'affliger, le péché, etc. Est-ce que je suis débonnaire ? Est-ce que je suis caractérisé par une faim, une soif de la justice ? Ça, c'est ce qui crée le vrai bonheur. Jésus regarde ça et dit, cette personne est heureuse. Vous voyez ? Donc, j'ai mis des flèches ici parce qu'il y a l'état d'être qui a un impact après sur l'état de fait. Si je suis pauvre en esprit, le royaume des cieux est à moi. Et puis c'est l'état de fait qui a un impact sur mon état d'esprit. Vous voyez la logique ? On ne peut pas le renverser, on ne peut pas commencer avec un état d'esprit. Sinon, c'est ce que Hébreux 11 va nous parler de ça très prochainement, la jouissance du péché, mais éphémère, momentané. Et Moïse a préféré souffrir avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps du péché. C'est quelque chose de très éphémère qui ne dure pas si on se concentre surtout sur l'état d'esprit. C'est la même chose quand on ouvre le psaume 119. Heureux, ça dit, ça commence en disant heureux. J'ai perdu, pardon. Je cherche. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, voilà. Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Voyons là encore, heureux sont ceux qui sont intègres. Donc d'abord, on travaille sur le fait, sur cet état d'être, et puis les autres sont la suite de ces choses. Donc un manque de joie, même l'expérience de la joie dans ma vie, devrait me ramener à ces choses. Je suis persuadé, je pense que nous avons tous être persuadés, que dans notre vie, Dieu peut utiliser ce manque de joie pour nous ramener vers lui. Où serions-nous si on était toujours heureux sans Dieu? Et surtout, après avoir goûté de cette eau vive, les autres eaux que présente le monde ont moins de goût. Mais parfois, on essaie quand même. On se perd et on cherche. Et on réalise, non, ça ne donne pas la joie. Ça ne me remplit pas le cœur. Et ce sentiment de vide en vous, vous l'avez senti presque dans l'estomac, parfois, je peux le sentir. C'est une réalité dans nos vies et c'est là pour nous pousser vers le Seigneur et vers tout ce que nous avons en lui pour que notre coupe déborde de nouveau. Et en fait, on peut demander au Seigneur, « Seigneur, ne permet pas que je sois rassasié des choses de ce bien. » Ne permets pas ces choses. Je ne veux pas être satisfait avec ce que le monde peut m'offrir. Je veux que toi seul, tu me donnes cette satisfaction. Et donc, la première ici, et je trouve que c'est très très beau que ça vient en premier, c'est que nous sommes pauvres d'esprit. Et ça, c'est pas pour le chrétien quand il vient, c'est pas pour l'incroyant quand il vient à Jésus pour la première fois. Ça, c'est pour le chrétien qui a connu Jésus depuis 10, 20, 30 ans. S'il y a ce manque de joie dans nos vies, Jésus m'appelle à être de nouveau pauvre en esprit. Pauvre en esprit. Parce que c'est ça qui est béni par le Seigneur. Et vous savez qu'il y a beaucoup de pauvres en argent qui vont l'afficher, qui vont l'admettre. J'ai besoin d'argent. Et quand on veut leur parler de leur esprit, ils deviennent soudainement riches, n'est-ce pas ? Je vous ai raconté déjà cette histoire, mais avec un autre ancien où j'étais pasteur aux États-Unis. Il y avait un gars qui est venu à la fin du culte et il nous demandait de l'aide. Et il voulait qu'en fait, qu'on l'amène en voiture, c'était à peu près à 15 kilomètres, assez loin. Et on a essayé de lui parler du Seigneur. Oui, oui, je connais la Bible, j'ai mémorisé les 32 chapitres de Matthieu. Voilà. Je ne pensais pas que ce soit vrai. Ce n'est qu'après que j'ai dit, est-ce qu'il a dit 32 chapitres? Il me semble qu'il n'y en a que 28. Et donc, on l'a pris dans la voiture et Robert et l'autre ancien qui était avec moi disaient, écoute, moi, j'ai brisé tous les 10 commandements. Le gars était choqué. Hein? Je pense qu'il avait peur. Hein? Il voulait presque partir, sortir de la voiture. Il a dit, ben non. Et puis Robert a dit, moi j'ai du mal à aimer. mon prochain. Il a dit, tu as du mal à aimer. Moi, j'aime tout le monde. Moi, j'aime tout le monde. Et non, non, vraiment, il dit, il essaie de le convaincre du péché, en fait. Et ce gars commence à vraiment s'inquiéter de Robert, parce qu'il lui parle de son propre péché. Il comprenait pas du tout comment Robert ne pouvait pas simplement aimer tout le monde comme lui. Et finalement, on arrive parce qu'on l'a amené où il voulait aller. Et avant de sortir, il a dit, je dois prier pour vous. Et il a prié pour Robert avant de partir. Voilà quelqu'un qui est très, très riche en esprit. Il a tout. Il a tout. Et vous savez, même dans la famille, moi j'ai cette expérience, hein, quand quelqu'un dans ma famille me parle de quelque chose qui ne va pas, ma première réaction, c'est que non, 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 ça va bien, je suis riche dans ce domaine. Bon, je ne vais pas le dire comme ça, mais ça c'est ma pensée. Les enfants, vous savez, dès que les parents vous parlent de quelque chose, ça c'est la réaction normale. Ben non, ça va, voilà, c'est pas mon problème. Mais Jésus dit non, 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 heureux les pauvres en esprit, ceux qui admettent qu'ils sont mendiants. C'est le même mot utilisé pour Lazare. Vous savez, l'homme riche et Lazare, il dit que Lazare était un pauvre, il n'avait rien. Ça, c'est ce que Dieu bénit, ceux qui n'ont rien devant lui. Il y a ces deux hommes qui vont au temple aussi. Il y a un qui est riche, hein, qui dit « Seigneur, je fais ça, je fais ça, je fais ça. » Il y a l'autre qui est pauvre. Il dit « Aie pitié de moi, sois miséricordieux, sois apaisé envers moi. » Et Jésus dit « Celui-là, il rentre justifié. » Donc, vous allez connaître cette expérience dans votre vécu. Si vous allez à Christ avec vos richesses, « Seigneur, mais pourquoi tu fais ça ? Tu sais, Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi ?» Vous pensez que ça va impressionner le Seigneur ? Ah oui, c'est vrai. Ah ben, elle, c'est vrai, elle a fait beaucoup de choses pour moi. Mais même les chrétiens, ça nous arrive à parler comme ça à Dieu. Regarde, j'étais fidèle. Pourquoi ça m'arrive ? Et c'est une pensée qui vient du diable. Hein. C'est pas, et ça ne nous remplit pas de joie non plus. Heureux les pauvres en esprit. On vient à Dieu sans rien. Je suis rien devant toi, Seigneur. Je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué, voilà, de souffrir et de pécher. Je veux, Seigneur, je veux que tu viennes envers moi. Et c'est là où nous trouvons la joie. Parce que heureux sont les pauvres en esprit. Donc, si vous pouvez penser à ces trois phrases, peut-être ça pourrait être mieux dit, hein, mais ça m'aide à garder ces trois choses en tête quand je lis ces béatitudes. Il y a cet état d'esprit, heureux, je veux être heureux, Jésus veut que je sois heureux, que je le ressente dans mon esprit, mais je le suis parce qu'il y a cet état de fait, parce que Dieu m'a béni d'une certaine façon. Et avant ça, il y a ces obligations, si vous voulez, ces nécessités. Il faut un état d'être. Il faut que je vienne à Dieu pauvre en esprit. Et que Dieu nous aide à trouver la joie qui est la nôtre en Christ.